je suis papa de deux enfants. Mon objectif, là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. La chance de faire déjà deux tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible et t'es capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc j'ai voulu relever celui-là. Donc, Handicap Agir Ensemble, c'est le fil conducteur, quoi.
Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marsay, produit et réalisé par Audiotactique.
On sent aujourd'hui l'intérêt des médias pour cette course.
Bonne année à tous les auditeurs de ce podcast Quête de Globe. De mon côté, cette nouvelle année a commencé par une phase de récupération suite à la Transat Jacques Vabre, parce que je me suis retrouvé assez fatigué finalement après cette course qui a été intense. Et en parallèle, il a aussi fallu réactiver toute la gestion de projet, construction de projet, de Cap Agir Ensemble en vue du Vendée Globe 2024. Ce moment sans compétition, en fait, il est assez récurrent. C'est-à-dire que tous les hivers, on a une phase de quelques semaines, quelques mois parfois, ou qui est un peu plus creuse en termes de navigation. Il y a aussi un intérêt, c'est de se replonger dans du débrief par rapport à l'événement qui vient d'avoir lieu, pour en tirer tout le bénéfice sportif et technique, je dirais. C'est une phase aussi où, au niveau de la préparation physique, on va remettre en place un cycle de préparation physique pour d'abord récupérer et puis ensuite refaire monter le niveau de forme pour arriver en début de saison avec une préparation physique, je dirais, intéressante, qu'ensuite on va maintenir pendant la saison sportive. Donc c'est aussi ce travail-là de refaire du cardio, refaire du renforcement musculaire pour être en forme pour la saison prochaine. La construction du projet est dans une phase assez charnière, je dirais, parce que on a en parallèle le volet acquisition, investissement du bateau qui se précise, parce que on est dans les discussions d'inventaire, d'expertise, de réservation du bateau, de planification de sortie d'eau pour ces expertises. Ça engage de l'investissement financier, humain, donc c'est pas mal de réflexion. Et on travaille aussi beaucoup sur le volet prospection, pour lequel on a des échéances assez importantes d'ici, la mi-février. La période est dense et on ressent, en tout cas moi je ressens le besoin aussi d'avoir plus de support sur certains postes, notamment sur la partie, commerciale du projet, parce que je me rends bien compte que la gestion du bateau en elle-même, en fait, ne me permet pas de pouvoir y consacrer suffisamment de temps. Donc on essaye de se structurer encore un peu plus pour que tous les domaines du projet puissent avancer en parallèle, sans qu'il y ait de temps mort, en fait, finalement. Notre travail collectif, Cap Agir Ensemble, a permis de générer des dons financiers pour Handicap Agir Ensemble, de la part d'entreprises partenaires, de la part d'entreprises qui ne sont pas partenaires, mais qu'on a démarché dans notre travail de prospection. Déjà, je les remercie, toutes ces entreprises qui soutiennent, qui s'engagent en tant que mécènes d'Handicap Agir Ensemble. Et puis c'est déjà un motif de satisfaction pour tout notre travail, en fait, de se dire on a une utilité très concrète avec ces dons et qui vont être employés pour au bénéfice d'Handicap Agir Ensemble. Et sur le côté partenariat avec l'école de voile des Glénans et les stages de voile inclusifs, écoute, il y a eu une journée la semaine dernière qui a eu lieu à l'IME Armor, à laquelle malheureusement j'ai pas pu participer à cause du contexte sanitaire, de ce satané coronavirus qui m'a empêché d'y aller. Mais le projet avance ça aussi c'est un motif de satisfaction. Épisode un peu spécial de Quête de Globe parce qu'on a la chance de recevoir une invitée. Marie Bérigaud-Perrochon qui travaille au sein de l'agence Rivacom en tant qu'attaché de presse et puis qui nous accompagne dans ce projet Cap Agir Ensemble en vue du Vendée Globe 2024. Salut Marie.
Bonjour, merci de me recevoir. Effectivement, je suis attaché de presse depuis maintenant plus de 25 ans dans le monde de la course au large, parce que c'est un milieu dans lequel j'ai toujours voulu évoluer. J'ai aujourd'hui 46 ans, je suis maman d'un petit garçon de 9 ans et j'ai la chance de vivre en Bretagne. C'est sans doute ce qui a attisé mon intérêt pour la voile et pour la course au large. Et donc depuis 25 ans, j'accompagne des marins et puis aussi des grands projets nautiques, tels notamment que la Route du Rhum destination Guadeloupe, dont j'ai la chance de gérer le service de presse, et puis voilà, d'autres aventures maritimes comme l'Hermione, comme voilà, des grands projets, des aventures maritimes et des aventures humaines surtout.
Et du coup, Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venue cette passion pour la voile et la course au large ?
Alors cette passion, elle est née d'abord petite fille, d'avoir arpenté les quais du port de la Trinité-sur-Mer et d'avoir vu ces grands bateaux et d'avoir vu surtout ces marins et d'avoir pu échanger avec eux. Je dis ça, ça fait parfois rigoler, mais c'est vrai. Quand à l'âge de 6 ans, on vous demande ce que vous voulez faire quand vous serez plus grand, bah, on dit qu'on veut être pompier, policier, maîtresse, président de la République. Moi, je voulais aider Loïc Perron à prendre le départ d'une course de bateau. Alors, c'était quelque chose de totalement abstrait dans mon environnement familial. Néanmoins, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui n'ont jamais contrarié cette envie et qui, au contraire, l'ont nourri en m'inscrivant à des stages de voile et en m'emmenant notamment sur le village de la Route du Rhum quand j'étais petite fille, voir les bateaux, voir les marins et voir cette ambiance et partager cette ferveur. Cette ferveur, voilà, qui se dégage de ces départs de course, et c'est ça qui m'a donné envie. Ça, plus la liberté, plus la mer, et plus ces images incroyables qu'on commençait à recevoir du large, et ces voix grésillantes qu'on n'a plus aujourd'hui quand on appelle un marin dans les mers du sud. Mais c'est voilà, cette fragilité de la liaison entre la terre et la mer qui laissait imaginer énormément de choses.
Et du coup, est-ce que tu l'as aidé, Loïc Perron, à prendre le départ d'une course au large ?
Alors, Loïc Perron n'a jamais eu besoin de moi pour prendre le départ d'une course au large. Néanmoins, j'ai la chance, parce que je considère que, enfin, en tout cas pour moi, c'est une chance énorme, d'avoir accompagné, grâce à l'équipe Banque Populaire, le trophée Jules Verne que Loïc Perron a remporté avec son équipage à bord de Banque Populaire, et je l'ai suivi un peu en relation presse et beaucoup en rédaction, puisque moi j'ai cette double casquette. Et ce suivi au quotidien du trophée Jules Verne a donné un livre que j'ai eu la chance d'écrire, et surtout que Banque Populaire a eu l'extrême gentillesse de me confier en rédaction. Donc voilà, donc ce projet et ce rêve d'enfant, il s'est concrétisé de cette manière-là.
Et donc ce livre, Victoire au Tour du Monde aux éditions Toucan, Marie, ouais, je vais être très honnête, je ne l'ai pas lu. Mais franchement, j'irai peut-être chercher à le lire parce que tu vois, pour avoir fait le Jules Verne en 2015-2016 et m'être confronté à ce record de Loïc Perron cette année-là, ça m'intéresse d'un point de vue culture générale, course au large, je dirais. Et pour en revenir plus à ton activité de chez Rivacom, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quoi ressemble un service de presse d'une course telle que la Route du Rhum destination Guadeloupe ?
Alors, le service de presse de la Route du Rhum destination Guadeloupe, si je devais trouver une image pour le décrire, je pense comme beaucoup de services de presse de très grandes courses et de grands événements d'une manière générale, je dirais que c'est une ruche. C'est une ruche, chacun a son rôle à jouer, les gens rentrent, les gens sortent, les gens échangent. C'est à la fois un lieu d'échange, un lieu de travail. Il faut savoir que sur la Route du Rhum destination Guadeloupe en l'occurrence, on a je crois la plus belle salle de presse qui existe, parce qu'on a une vue incroyable sur la plage du Sillon et donc sur la mer, et c'est un endroit qui favorise la concentration, qui va se composer en fait, qui va se décomposer en plusieurs espaces. On a d'abord un espace d'accueil qui donne tout de suite sur un espace de travail qui est réservé aux attachés de presse des marins. C'est-à-dire qu'on parle de service de presse, donc évidemment on accueille la presse, mais on accueille également les attachés de presse qui s'occupent des relations presse des marins et de la communication des marins. Ils et elles ont chez nous et dans notre espace un lieu pour travailler. On a ensuite au fond de cette très très grande salle au Palais du Grand Large un espace dédié aux journalistes. Alors c'est comme une grande salle de classe quelque part, hein. C'est des grandes tables, des grandes rangées de tables, où, voilà, où chacun s'approprie un espace et au fil du temps on se rend compte en fait que dans les 24-48 heures qui suivent l'ouverture de la salle de presse, chacun s'est aménagé son bureau, son espace de travail et chacun a pris possession des lieux. Donc voilà, donc cet espace il fonctionne comme ça, avec des bureaux sur les côtés pour les rédacteurs, pour les photographes. On attribue également des bureaux spéciaux aux télévisions pour que les équipes puissent enregistrer leurs commentaires et leurs sujets au calme, parce que ça c'est important pour nous. Et puis voilà, on a, je dois avouer, toujours accorder, en tout cas moi depuis que je m'en occupe, toujours accorder un traitement un peu particulier aux médias guadeloupéens. Qui arrivent, à qui on pense toujours quand ils arrivent de Guadeloupe et dans le froid de Saint-Malo et dans le froid de la Bretagne. Et voilà. Et pour nous, quand ils arrivent, c'est vraiment le signal que ça y est, ça commence. La route du Rhum est lancée, ils sont là, on peut y aller. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. C'est un espace qui n'est pas ouvert au public, non pas qu'on ait quoi que ce soit à cacher, mais parce que forcément, comme vous pouvez, comme on peut l'imaginer, on est sur un espace de travail, donc on ne peut pas malheureusement accueillir tout le monde et accueillir le public. Et puis voilà, ça reste des tables, ça reste des chaises et ça reste encore une fois un grand bureau partagé et un énorme open space dans ce bâtiment. Donc on y accède sur accréditation, et ces accréditations, elles sont délivrées à l'accueil sur justificatif, donc ce qu'on appelle la carte de presse, ou alors un courrier d'un rédacteur en chef qui dit qu'il atteste que cette personne vient bien là pour suivre la route du Rhum et pour couvrir la route du Rhum.
Du coup, parce que le départ de la route du Rhum, ce sera le 6 novembre prochain. Là, donc à une dizaine de mois de l'événement, il y a déjà un intérêt de la part des médias. Il y a ça planifie déjà des interviews ou alors des sessions de présence à Saint-Malo. Comment ça se passe ?
Alors à ce stade, effectivement, dès janvier, nous on commence à travailler. C'est-à-dire que moi je suis déjà aujourd'hui sur le sujet de la médiatisation presse de la route du Rhum destination Guadeloupe, avec les premières prises de contact avec les médias. Alors pas pour des sujets tout de suite, mais ça va démarrer courant février, peut-être même un peu avant. Mais on est sur les prises de contact, on est sur des discussions et des échanges avec les rédactions sur qu'est-ce que vous aimeriez faire, comment on peut vous aider, comment en parler tôt. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la route du Rhum destination Guadeloupe, contrairement par exemple à un Vendée Globe, c'est une course qui a une temporalité plus courte. Le Vendée Globe, il vit sur 3 mois et demi, donc ça laisse le temps de raconter les histoires. Là, on est sur un temps beaucoup plus court, d'autant plus court que les ultimes, on le sait, ont tendance à réduire à chaque fois le temps, et c'est ce qui rend aussi, c'est ce qui donne une part d'intérêt de cette course, mais l'intérêt, il va au-delà de ça et au-delà de la simple présence des ultimes. Il va, en fait, c'est la richesse des profils. On est aujourd'hui sur un nombre de concurrents au départ annoncé à 120, peut-être un peu plus, on ne sait pas encore, mais ce sont 120 histoires à raconter, 120 profils et 120 mines d'anecdotes, d'histoires, de... donc ça, notre métier, c'est vraiment de mettre ça en avant. D'où la nécessité de commencer très en amont et de travailler aussi avec les rédactions, justement, à aller chercher ces profils qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que c'est un amateur qui va prendre le départ de la course qui est le rêve de sa vie, parce que c'est le doyen, parce que c'est le plus jeune, parce qu'il a un engagement sociétal fort, et qui n'est pas un engagement fin et vain, ou parce qu'effectivement c'est le favori de telle ou telle catégorie. Donc ce décortiquage des sujets, on le démarre dès maintenant avec les rédactions, donc pas forcément encore dans le vif du sujet des profils de marins, parce que la liste des inscrits ne sera communiquée et ne sera rendue officielle que le 1er avril, mais on est déjà dans l'anticipation de tout ça, et puis des sujets autour avec la valorisation des territoires, des partenaires et de tout cet écosystème qui fait que cette course est ce qu'elle est aujourd'hui.
On sait que 2018, ça avait déjà été énorme parce que c'était une édition anniversaire, qu'entre-temps, il y a eu le Vendée Globe 2020 qui a mis quand même un gros coup de projecteur sur le milieu de la course au large. Et est-ce que ça se sent en amont de cette Route du Rhum 2022 tu vois une différence? Tu pressens des choses? C'est les mêmes médias? C'en est d'autres, des nouveaux qui s'intéressent?
Alors, on sent déjà aujourd'hui l'intérêt des médias pour cette course. Elle est entrée dans le patrimoine sportif des Français en général et des journalistes en particulier. Ce sera en 2022 l'événement sportif majeur, en tout cas sur le territoire français, puisqu'évidemment nos amis joueurs de foot ont une petite compétition juste après nous. Mais on est vraiment sur l'événement majeur de cette année 2022. Donc oui, il y a déjà un intérêt manifesté. Après, ce qui est étonnant et ce qui est intéressant, surtout, plus qu'étonnant d'ailleurs, et je pense que c'est lié à ce qui s'est passé sur le dernier Vendée Globe, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas les premières demandes qui sont formulées de la part de grands médias, ce n'est pas forcément pour les ultimes. Et ça, alors on sait évidemment que les ultimes forcément feront parler d'eux, mais aujourd'hui, et je pense que c'est aussi la force d'un Vendée Globe comme c'est la force d'une Route du Rhum, c'est que les journalistes vont chercher l'humain et vont chercher les histoires et vont chercher quelque part des profils et des sujets qui vont parler au grand public et ne sont pas forcément des sujets techniques. Et je dois avouer que moi, en tant qu'attachée de presse de cette course, je trouve ça encourageant, je trouve ça rassurant et je trouve que ça ouvre énormément de perspectives. Je me dis qu'effectivement, on va pouvoir jouer, on va pouvoir raconter plein de choses. Donc ça, c'est intéressant et oui, on le ressent déjà. Dire aujourd'hui qu'il y aura des médias différents, je m'avance un peu, mais oui, forcément, il y aura de nouveaux médias qu'on n'avait pas forcément il y a 4 ans. Je pense notamment aux médias qui se sont développés sur un modèle digital très fort. Voilà, ces médias-là, on ne les avait pas il y a 4 ans ou tout juste les prémices. Là, on va y aller vraiment et on va tout faire en tous les cas pour travailler avec eux sur le long terme et faire vivre l'amont de cette course.
Super, bah c'est une bonne nouvelle hein, parce que pour nous en tant que marins, puis pour nos partenaires, pour valoriser les projets, c'est hyper encourageant. Du coup, Marie, si pendant que la course a lieu, on a des vacations, des temps d'échange entre la terre et le bateau, comment ça s'organise, comment ça s'articule à terre, quel est l'envers du décor d'une vacation avec un skipper en mer?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces vacations, en tous les cas, quand on est dans un mode course, ces vacations, elles n'arrivent pas par hasard. Enfin, si elles arrivent alors qu'elles n'étaient pas prévues, c'est qu'il y a un souci et qu'on fait une vacation exceptionnelle. Mais sur une journée normale de course, ces vacations, elles viennent rythmer la journée du service de presse et notamment des rédacteurs. Donc, il y a des vacations le matin et il y a des vacations le midi sur une espèce de grand messe généralement en direct, en tout cas sur une course comme la Route du Rhum ou sur une course comme le Vendée Globe. Donc il faut d'abord établir une liste de marins. En tout cas, nous, côté service de presse, on établit en lien et en discussion avec les rédacteurs, on établit une liste de marins qu'on va appeler. Alors, le matin, généralement, ce sont plutôt des marins qui sont en tête de leur catégorie de bateau. En revanche, le midi, le champ des possibles est beaucoup plus large. Et donc là encore, on va chercher des témoignages, des histoires, et puis surtout, on essaye de faire parler des marins qu'on n'entend pas forcément parler tous les jours. Et là, au moment où la vacation démarre et quand le technicien du son appelle le marin, c'est toujours un moment très particulier parce que nous, terriens, on se sent privilégié parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité d'un marin qui est sur son bateau, qui est dans cet espace de vie exigu, mais qui est en même temps dans cet espace de liberté incroyable. Nous, généralement, on est sous une tente ou dans un grand bâtiment. Ou, voilà, donc c'est pas toujours très très l'horizon n'est pas toujours très très ouvert et vraiment on s'immisce un peu dans cette intimité et les premiers mots les premières secondes de la vacation sont toujours capitales parce que on sait la voix dit beaucoup. On enregistre un podcast, on sait tous, voilà, et je pense qu'on aime tous la voix et le récit parlé. Et dès les premières secondes, on sait comment va le marin et surtout jusqu'où on va pouvoir aller avec lui dans les échanges et dans les confidences. Alors c'est beaucoup dire, hein, on n'est pas des psys non plus et on va pas chercher à lui faire dire ce qu'il veut pas dire, mais en tout cas on sait jusqu'où et il va être capable de se livrer et de nous raconter sa course et de nous raconter ce qu'il est en train de vivre, heureux ou malheureux. Il arrive parfois qu'on ait vraiment des marins pas en forme et là il y a un côté on est quand même aussi là parfois pour les rebooster, quoi. Ça fait aussi partie du jeu. Donc ça, c'est la manière dont on le ressent, nous, à terre. Mais toi, Sébastien, en tant que marin, tu peux peut-être nous dire justement comment tu vis le fait d'ouvrir finalement la porte de ton environnement de solitaire ou de marin quand t'es en double. Mais voilà, quand t'es en train de manœuvrer ou à la table à cartes, en train de regarder un peu ce qui va se passer sur les heures à venir, comment tu vis cette ouverture de porte et le fait de finalement d'inviter à bord des terriens qui vont un peu te cuisiner quand même?
Bah, écoute, je dirais que les vacations, celles que tu as appelées les vacations du matin, qui en général sont très très tôt, hein, quand même, faut le dire, c'est 6 heures du mat ou des fois c'est avant même. Et ouais, 5, ouais. Donc c'est très très tôt déjà. Donc c'est sur la fin de nuit, ça peut mettre un peu d'animation parce que c'est la partie quand même qui est la plus difficile, je dirais, dans la gestion de la nuit, c'est la fin parce que forcément c'est là où on est plus fatigué. Quand on a ces vacations-là, souvent on est content parce que, comme tu le disais, c'est les vacations pour la tête de flotte. Donc, quand on reçoit un petit mail ou un message en disant on va appeler un tel et qu'on est dans la liste, finalement on n'a presque pas besoin de regarder le classement. Donc ça c'est plutôt, c'est souvent des vacations sympas, mais qui effectivement sont, de mon vécu, souvent plus succinctes que d'autres échanges qu'on peut avoir. Et ensuite, sur des vacations, je dirais, hors aspect sportif, si on veut échanger sur ce qui se passe à bord, sur ces vacations que tu évoquais du midi, c'est très relatif à la situation du bateau, du classement, au moral du skipper. C'est souvent le fait de pouvoir parler, ça fait du bien quand même, quoi. Surtout si on est seul depuis longtemps, c'est un peu une évasion pour nous. C'est-à-dire qu'on est focus H24, 7 jours sur 7, sur le réglage des voiles, la route du bateau. Et on a des échanges aujourd'hui beaucoup par messagerie, c'est-à-dire on fait du WhatsApp essentiellement, enfin des messageries comme ça, mais parler à quelqu'un quand on est en solitaire, ça nous arrive très très peu finalement. Donc c'est sympa. Et d'ailleurs, on est très nombreux à... On parle tout seul. Il y a beaucoup de marins qui parlent tout seul. Mais là, finalement, à la vacation, on a l'occasion de parler à quelqu'un. C'est encore mieux, quoi. Et donc voilà, et puis il y a des cas où la situation à bord peut ne pas être facile. On l'a vécu, hein, pendant la dernière Jacques Vabre, on avait prévu cette vacation le jour où on a cassé une voile et on était en pleine réparation de cette voile. Bah là, clairement, moi j'ai envoyé un petit message en disant « Désolé, mais c'est pas possible de prendre ne serait-ce que ces 10-15 minutes d'échange parce que là, on a une urgence à bord ». Et donc voilà, il y a aussi souvent un peu cet aléa technique de la connectivité du bateau. Toi, tu évoquais la voix grésillante, effectivement, qu'on n'entend plus du tout, parce qu'aujourd'hui, on a un son assez polissé, puis des fois, on peut échanger avec quelqu'un qui est au milieu de l'océan, comme s'il était dans le canapé de la maison d'à côté. Hein. Donc ça, c'est assez dingue. Mais du côté bateau, il y a quand même une contrainte de s'assurer que la connectivité passe bien entre l'antenne satellite, le satellite. Si c'est un live vidéo et qu'on veut pouvoir switcher des caméras, bah, s'assurer que toutes les caméras sont appairées avec, avec l'application qui gère ça. Donc il y a une petite, en amont de la vacation, il y a une petite gymnastique technique, mais qui s'est beaucoup amélioré par rapport à ce qu'on connaissait par le passé, ne serait-ce que déjà depuis 2018, depuis la dernière édition de la Route du Rhum ou le précédent Vendée Globe. On voit qu'on a beaucoup progressé là-dessus. Et nous, finalement, on arrive à mieux communiquer, à plus communiquer et plus témoigner, parce qu'aussi on est déchargé de la contrainte technique avec les technos qui progressent, quoi. Donc voilà, souvent on nous dit « mais ça doit vous prendre un temps fou ». Et en fait, aujourd'hui, ça nous prend presque moins de temps parce qu'on a des meilleurs outils, quoi.
Vous vivez des moments exceptionnels quand vous êtes en mer comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas à certains moments, tu te dis « on doit m'appeler aujourd'hui à la vacation, j'ai pas envie, non pas que j'ai pas envie de parler aux autres, mais… J'ai envie de garder ce moment-là pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette vacation, elle peut devenir quelque part une contrainte parce que justement, tu as l'impression qu'on te vole ce moment incroyable que tu es en train de vivre ?
Bah, si, il y a des moments où on a plus envie d'autres que de répondre. Mais je dirais que ça fait partie du jeu. Après, il y a des jours où on va répondre, on sera peut-être plus ouvert que d'autres à aller pousser l'échange, à aller dans l'intimité de ce qu'on vit à bord. Mais malgré tout, enfin, on a quand même bien conscience que aujourd'hui, si on fait rien sortir du bateau, on va pas du tout parler de notre course, de notre aventure. Donc ça fait partie de notre métier. Et franchement, je trouve que on se prend au jeu, parce que, enfin, en tout cas, moi, je me prends au jeu. Je trouve que d'avoir une communauté derrière, on sait que les gens suivent, s'intéressent, ont envie d'en savoir plus. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie d'en donner aussi un peu plus. Tu vois, d'avoir, y a pas une interaction directe avec cette communauté parce qu'on a, on t'a toi, Marie ou quelqu'un d'autre au bout du fil ou en visio. Mais on sait que derrière, ça suscite de l'intérêt, tout simplement, quoi. Donc, c'est sympa. Moi, je suis très heureux de partager ma passion pour la course au large. Après, je dirais, en fait, ce qui est plus polluant à bord, c'est le fait d'être connecté constamment avec la Terre. C'est plus ça. Tu vois, mais finalement, c'est une problématique qu'on retrouve aussi dans la vie terrestre, quoi, de se dire à quel point je veux être au courant de tout ce qui se passe tout le temps, ou alors pas forcément avec une fréquence différente. Mais c'est pareil en mer, et tu vois, moi, c'est la première transat que je faisais, la transat Jacques Vabre 2021, en ayant une messagerie connectée H24. Il faut évidemment, pour des raisons de sécurité, que le bateau soit joignable H24. Mais je pense que pour les prochaines courses, je ferai l'effort de me déconnecter un petit peu plus, quoi. Pour justement ne pas avoir ce fil toujours, ce lien toujours avec la Terre, parce que on est en mer pour être en mer, quoi, tu vois. On est en mer pour vivre la vie d'un marin. C'est vraiment un espace-temps complètement différent, quoi, où nos préoccupations quotidiennes sont pas les mêmes, quoi. C'est le vent, les voiles, la météo, les vagues, c'est les problèmes techniques à gérer, c'est une sorte de bulle un peu, quoi. Donc, pour la prochaine route du Rhum ou la prochaine course, je dirais un peu longue, j'essaierai d'aménager cet échange qui soit pas constant, quoi. Marie, je te remercie déjà pour tout le travail qu'on fait ensemble sur le suivi, relations presse, et puis aussi réseaux sociaux, influence digitale pendant toute l'année. Merci pour ton travail et l'équipe de Rivacom et aussi Mathilde. Et puis merci de nous avoir témoigné de ton expérience, ton savoir-faire dans ce podcast.
Merci à toi et à toute l'équipe de Cap Agir Ensemble pour votre confiance et puis pour nous accueillir sur ce podcast et au sein de l'équipe. C'est vrai que c'est pour nous c'est une grande richesse. Un projet comme le tien est une grande richesse humaine et sont des projets qu'on aime parce qu'ils nous font grandir et avancer. Donc merci pour ça.
À bientôt Marie.
À bientôt.
La phase d'acquisition du bateau va se poursuivre avec l'inventaire et puis le diagnostic complet du bateau. Avec Cap Agir Ensemble, on a cette période très importante d'un point de vue prospection et qu'on espère finaliser. Et du côté Handicap Agir Ensemble, il y a le 8 février prochain une nouvelle journée prévue avec les jeunes de l'IME Armor. À laquelle j'espère pouvoir participer cette fois-ci parce que j'en ai été malheureusement empêché la semaine dernière. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre écoute, votre temps. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, le liker et à nous laisser des petits commentaires aussi si vous voulez voir des sujets abordés ou de petites modifications, des améliorations, je dirais. Merci, à bientôt.